Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit « Il est écrit « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit « Il donnera pour toi des ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Alors Jésus lui déclara, il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, tout cela, je te le donnerai si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. Alors Jésus lui dit, arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. Alors le diable le quitte, et voici que les anges s'approchèrent et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu.
Louons cet évangile.
Très chers frères et sœurs, en ce premier dimanche de carême, eh bien, nous revenons au commencement. Le commencement, plutôt le récit des origines. Et tout, en fait, dans les lectures que nous venons d'entendre, nous y ramène. La première lecture, bien sûr, du livre de la Genèse, au chapitre 2 et chapitre 3, le psaume. La deuxième lecture, avec cette méditation de saint Paul, qui est assez complexe, il faut bien le dire, sur le rapport entre le premier Adam et le second Adam, et la faute et la rédemption. Et puis cet épisode marquant de Jésus dans l'Évangile, au commencement de son ministère public, où l'Esprit Saint le conduit dans le désert pour être tenté pour cette confrontation. C'est un remake, c'est la lutte entre Adam et le serpent, c'est le retour. Et là, la victoire va être définitive. Donc, revenons, puisque la liturgie nous y invite, revenons à ce récit des origines. Et ce récit des origines, c'est le récit de votre origine, de la vôtre à chacun, à commencer par les plus petits jusqu'aux plus grands. Et donc, il nous intéresse en premier lieu, puisque celui qui veut grandir, celui qui veut développer en lui toutes ses potentialités et donner du fruit en abondance, c'est celui qui sait puiser en ses racines les plus profondes, et donc en ses origines. Alors, revenons à ce récit. En commençant d'abord par ce personnage mystérieux, énigmatique, du serpent. Et dans le livre de la Genèse, il y a un mot particulier qui caractérise ce serpent. Il est Achum. J'ai pas dit Achum, j'ai dit Achum. C'est le mot hébreu qui signifie, qui est traduit ici par rusé. Or, ce même mot Achum qui apparaît en Genèse 3:1, il est apparu dans le même récit, le verset précédent, Genèse 2:25, que nous n'avons pas lu ici, mais qui dit que l'homme et sa femme étaient Achum et ils n'en avaient pas honte. Pour ceux qui ont lu ou se rappellent de ce récit, vous vous rappelez que le mot Achum, à ce moment-là, en Genèse 2:25, est traduit par nu. L'homme et la femme et sa femme étaient nus, l'un devant l'autre. Ils n'en avaient pas honte. Donc le mot Achum, en hébreu, on parle bien ce récit dans sa langue originale, eh bien, il a une ambivalence qui est très intéressante. Il est soit positif, soit négatif. Et nous l'avons entendu, à la fin de ce récit de la tentation, eh bien, la femme et l'homme découvrent qu'ils sont Achum. Découvrent qu'ils sont nus, mais cette fois-ci, c'est plutôt le versant négatif de Achum. Le fait d'avoir cru à la parole du serpent les transforme en serpents. Ils sont Achum, comme le serpent est Achum. Ils deviennent rusés, comme le serpent. Alors, ça c'est le premier point qu'il faut souligner, et d'ailleurs, il y a des répercussions dans le récit biblique, dans le récit de la rédemption, du salut que Dieu apporte. Rappelez-vous, dans le livre des Nombres, avec l'épisode du serpent dans le désert, et les morsures de ces serpents venimeux qui décimaient le peuple d'Israël. Et ils crient vers Dieu, sauve-nous, sauve-nous. Et là, Dieu parle à Moïse et dit, fais-toi un serpent d'airain et mets-le sur une hampe. Et ceux qui regarderont le serpent d'airain seront sauvés. Vous voyez cette ambivalence du serpent. Alors, le deuxième personnage que j'aimerais un peu détailler ici, c'est la femme. Alors là, c'est périlleux. Hein. Bon, encore on parle du serpent, ça va. Mais quand on parle de la femme, attention. Hein. Attention, mon père, vous engagez sur une pente savonneuse. Je vais essayer de ne pas glisser, d'accord? Donc, la femme. Et elle est désignée dès le début d'ailleurs par la femme, c'est Isha, en hébreu Isha, la femme. Et d'ailleurs, c'est le serpent qui, c'est dans cette relation au serpent qu'elle va devenir la femme. Puisque en Genèse 2, c'était donc une femme et puis c'était aussi sa femme. Mais là, elle est mise sur un piédestal par le serpent. Le serpent, vous voyez, hein, flatté, et puis comme ça, vous arriverez bien à gober la proie que vous voulez gober. La Fontaine l'avait bien dit, non ? Avec le corbeau et le renard. Le renard a commencé par flatter, et il a eu la proie qu'il voulait manger. Et là, le serpent commence par flatter. Il dit à la femme. Et voilà que il va réveiller en elle et attiser en elle ce désir, qui est un désir qui est bon, le désir finalement d'arriver à cet aboutissement qui est d'être comme Dieu. Mais mes amis, ça c'est déjà le plan de Dieu. Dieu a créé l'Adam, mâle et femelle, pour qu'ils deviennent comme à l'image de Dieu, mais qu'ils deviennent comme à la ressemblance de Dieu. Donc finalement, ce désir-là, il est de Dieu. Vous voyez, la ruse du serpent. Mais le souci, c'est comment tu vas arriver à cet aboutissement, à assouvir, à finalement accomplir ce désir qui est en toi, ce désir d'absolu. Comment ? Et là, le serpent va opérer un court-circuit. En fait, voilà, il y a deux types d'humanité. En fait, la femme, avant de revenir sur ces deux types d'humanité, la femme, si nous lisons bien ce que dit saint Paul, un seul a péché. Un seul a péché. Alors qui a péché ? Est-ce que c'est l'homme ou est-ce que c'est la femme ? Un seul a péché. Et par le péché d'un seul, la mort est entrée dans le monde. Eh bien, mes amis, prenons le texte biblique au sérieux. Et ce seul qui s'est laissé tenter par le serpent et qui a pris, qui d'abord s'est laissé convoiter et a capté le fruit pour soi-même, eh bien, c'est la femme. Mais alors, si nous lisons saint Paul, lui, il dit que c'est l'homme. Ben, vous l'aurez compris, dans le récit de la Genèse, la femme, c'est l'humanité. Dans son chemin d'achèvement, c'est l'humanité inachevée. C'est vous, c'est moi. Voyez ? Et donc, la femme, eh bien, en fin de compte, tombe dans ce versant, dans ce chemin qui n'aboutit pas à l'assouvissement, à l'accomplissement de son désir le plus profond, qui est un bon désir d'être comme Dieu. Mais finalement, il aboutit à la mort. Finalement, il aboutit à la déchéance. Elle devient comme le serpent. Elle devient comme un animal. Et parce que, en fait, elle a pris le chemin de la mort qui est le chemin, finalement, que au Deutéronome, Dieu va dire, je mets devant toi deux chemins. Tu as le choix entre deux choses. Et l'humanité, en fin de compte, elle se caractérise par sur quel chemin tu vas te prendre, le chemin de prendre pour toi, de toi-même, ou alors recevoir de l'autre pour te donner à l'autre. Le premier chemin, c'est le chemin de la mort. Le deuxième chemin, c'est le chemin de la vie. Choisis quel chemin tu veux prendre. Et je finirai en disant que dans ce récit, Dieu merci, il y a une fenêtre ouverte vers le salut. Parce que la femme, donc l'humanité, nous, vous, nous avons succombé à cette tentation de prendre pour nous, de nous-mêmes. Cette grande tentation, terrible. Mais dans le récit, une fois qu'elle s'est laissée prendre, qu'elle a cru le mensonge du serpent, qu'elle a laissé la convoitise grandir en son cœur et qu'elle a finalement saisi d'elle-même, pour elle-même, ce fruit qu'elle en a mangé, elle fait quelque chose de surprenant. De surprenant, cette femme. Elle fait quelque chose de très surprenant. Qu'est-ce qu'elle fait ? Imaginez que vous avez un fruit extraordinaire, vous avez un arbre extraordinaire, un fruit extraordinaire, que vous êtes vraiment, vous êtes pris par la convoitise, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez le fruit et tous les autres fruits, vous dépêchez de les prendre et de les mettre dans un coffre-fort, de les mettre à la banque. Et puis comme ça, vous les aurez pour vous-même. Alors ça, c'est vraiment... Et c'est le péché mené jusqu'à son terme. Je convoite, j'amasse pour moi. Or, Dieu merci, la femme ne fait pas ça. Et ça va être son chemin de salut. Elle s'est laissée prise par la convoitise, ok, elle a pris du fruit, elle en a mangé, très bien. Et puis, elle va faire quelque chose de surprenant. Elle va le donner. Ah, ça c'est intéressant. Ça veut dire qu'elle n'est pas complètement mauvaise, puisqu'elle va en donner à son mari. Et c'est par ce don que Dieu va la sauver. Parce que finalement, c'est un don d'amour. Eh oui, même si nous sommes pécheurs, nous sommes encore capables d'amour. Nous sommes encore capables de donner. Vous voyez, on n'est pas complètement rongé par la convoitise. Et par ce geste, Dieu va la sauver. Elle donne. Vous voyez. Mais alors, soyons réalistes. Et appuyons-nous sur ce récit, parce que, en fait, elle va donner. Alors, c'est un élan de générosité, on est bien d'accord. C'est un élan d'amour, mais, et c'est là où c'est tout le mal du péché qui finalement pervertit même notre don et fait que même cet élan de générosité, au lieu de donner la vie, il donne la mort. Elle donne, effectivement, mais qu'est-ce qu'elle donne ? Elle donne le fruit qui va faire mourir son mari. Voyez à quel point le péché nous a pervertis. Même nos plus grands élans de générosité sont marqués par la mort. Et soyons réalistes, hein, les plus beaux fruits qu'on puisse donner, bah, c'est les enfants. Et malheureusement, nos enfants sont marqués par la mort. Pitié, Seigneur, pitié. Sauve-moi. C'est prendre conscience, accepter cette réalité, que de moi-même, même ma générosité ne suffit pas pour avoir la vie. Et là, on va vraiment avoir ce repentir, cette humilité. Alors finalement, c'est le Christ et le Christ seul qui peut nous sauver de la mort. Vous voyez ? Parce que le Christ, finalement, va, et c'est l'image de l'époux parfait, du mari, de l'unique mari qui va sauver la femme. Donc, vous l'aurez compris, qui va sauver notre humanité, qui va nous sauver tous. Et qu'est-ce qu'il fait pour nous sauver ? Il sait très bien que le fruit que la femme lui donne va le faire mourir. Il le sait. Et il l'accepte. Il l'accepte non pas pour désobéir à Dieu, mais il l'accepte pour sauver la femme. Et comment Jésus fait pour nous sauver ? Il meurt avec nous. il accepte notre mort, alors que lui n'avait pas péché. Cloué sur la croix. Par amour, à la fois de son Père et à la fois de nous-mêmes, il va descendre dans notre enfer. Il va descendre dans notre mort pour nous y sauver et pour nous en sortir. Alors laissons-nous sauver par le Christ. Tournons-nous vers lui, accueillons-le, rendons-lui grâce. Alors que nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. Amen.